I've seen things you people wouldn't believe.
Écoutez Parlons Travelling et Gros Plan, une émission entièrement consacrée au cinéma sur Radio B et diffusée tous les premiers jeudis du mois à 7h30, 8h30 et 12h30.
Je vous parle solidarité avec les étudiants et les ouvriers et vous me parlez Travelling et Gros Plan.
Bonjour à tous. En cette période d'Halloween, je vous propose un voyage avec mon camarade Ray Lamage du site Abus de Ciné. Un voyage vers un lieu où personne ne nous entendra crier. Mais où, je l'espère, quelqu'un nous entendra tout de même parler. En 1977, Ridley Scott, le grand réalisateur anglais qui sort cette année deux films événements, Le Dernier Duel et House of Gucci, rien que ça, Ridley Scott donc se rendit dans une salle de cinéma pour voir un film de science-fiction qui était lui aussi un film événement à la fin des années 70, Star Wars. Mais à la fin de la projection, il était anéanti. Parce que quelqu'un d'autre que lui, à savoir un petit gars nommé George Lucas, avait osé réaliser ce film incroyable dont il aurait lui-même rêvé d'être l'auteur. Cette année-là, il venait pourtant de faire son premier film, Les Duellistes, avec Hervé Kettel, qui est le meilleur film sur l'époque de Napoléon. Donc premier film, premier chef-d'œuvre. Mais ça ne lui suffisait pas. Alors dès que l'occasion se présenta, il s'attaqua à son propre film de science-fiction, et là, personne n'allait rigoler. Son projet à lui n'était pas un space opéra avec plein d'aventures et des petits robots rigolos, non, le sien sera sombre, angoissant, terrifiant. Ce sera un film d'horreur, inspiré de l'histoire d'un scénariste génial, Dan O'Bannon, et des visions folles d'un artiste suisse très étrange, Hans Rudi Giger. C'est ainsi qu'il donnera naissance à Alien, le 8e passager, l'histoire de l'équipage du vaisseau spatial Nostromo, qui se fera presque entièrement décimé par une horrible créature appelée le Xénomorphe, récupérée sans le savoir durant une excursion sur une planète mystérieuse. Seule une femme survivra, le lieutenant Ripley, incarné par Sigourney Weaver.
Comment peut-on le tuer, Ash ? Il doit y avoir un moyen de le tuer, lequel ? Comment peut-on faire ?
Vous ne pouvez pas.
Tu dis des conneries !
Vous n'avez pas encore compris à qui vous avez affaire ? Un parfait organisme. Et sa perfection structurale n'a d'égal que son hostilité. Je ne vous mentirai pas sur vos chances de survie. Mais vous avez ma sympathie.
En 1979, le réalisateur canadien James Cameron se rendit dans une salle de cinéma pour voir un film de science-fiction événement, Alien. Mais à la fin de la projection, il était anéanti. Parce que quelqu'un d'autre que lui, à savoir Ridley Scott, avait osé réaliser ce film incroyable dont il aurait rêvé d'être l'auteur. Le choc était d'autant plus rude pour lui qu'il l'avait déjà ressenti une première fois en découvrant Star Wars, lui aussi, et même encore avant en découvrant 2001 l'Odyssée de l'espace de Kubrick. L'histoire de l'art est toujours une question d'influence, d'héritage et de filiation, et on le voit ici, le cinéma n'échappe pas à cette règle. Lui, James Cameron donc, venait seulement à cette époque, en 79, de faire un court-métrage de science-fiction intitulé Xenogenesis. Un petit film assez impressionnant de 10 minutes, où l'on trouvait déjà plusieurs éléments importants qui allaient annoncer ce qui deviendrait sa propre version d'Alien. En effet, on y voit un homme combattre une machine géante dans une station spatiale avec un pistolet laser, ce qui montre déjà que Cameron a lui aussi été hyper influencé par Star Wars. Puis on voit une femme débarquer aux commandes d'une autre machine géante, en forme d'araignée, pour prendre la suite du combat pendant que l'homme est suspendu dans le vide. On a donc là trois éléments importants de ce que sera Alien 2, c'est-à-dire 1. Une femme forte qui prend le devant de la scène, 2. Une femme qui se bat avec une machine pour combattre un ennemi géant, et 3. Enfin, une personne suspendue dans le vide dans une station spatiale. Tout était déjà donc prêt dans sa tête pour imaginer la suite du film de Ridley Scott, qui lui sera confié après moult péripéties. Avec ce court-métrage, James Cameron pose bien les fondements de son univers artistique, mais pas seulement. Il démontre aussi son talent technique. Parce que c'est lui qui fabrique le décor de la station spatiale et les maquettes des machines géantes. C'est d'ailleurs sa particularité. Il a été mécanicien avant de faire du cinéma, et il a un frère ingénieur. Donc il est extrêmement pointilleux sur la technique, et sur tout le reste aussi d'ailleurs. Parce qu'il sait lui-même tout faire, et donc il ne supporte pas que les autres ne fassent pas aussi bien que lui. Et comme il est perfectionniste, et qu'il veut toujours un réalisme total, il faut pouvoir le suivre. C'est donc grâce à ce premier travail qu'il sera recruté ensuite par le producteur Roger Corman pour faire les effets spéciaux de plusieurs séries B horrifiques, mais aussi les matte paintings du film New York 1997 de John Carpenter. Ensuite, on lui permettra de tourner son premier long métrage en 1981, Piranha 2, les tueurs volants. C'est la suite du film Piranha de Joe Dante. Mais malheureusement, ce sera une catastrophe totale. En effet, il part en Italie pour filmer car le producteur est italien, mais il se fait virer au bout de quelques jours. Car il faut savoir qu'il a un caractère de cochon et qu'il devient tyrannique sur ses tournages à cause de son fameux perfectionnisme. Et là, face aux injonctions d'un producteur médiocre, ça ne passera pas. Le film se terminera donc sans lui, dans un grand n'importe quoi, au point qu'il s'infiltrera par effraction dans la salle de montage pour essayer de réparer la casse. Le producteur portera alors plainte contre lui et il se retrouvera SDF en Italie. Comme début de carrière, on a connu mieux. Mais c'est à ce moment-là qu'il aura, semble-t-il, l'idée miraculeuse du film Terminator, qu'il réussira à tourner pour trois fois rien et qui aura un énorme succès surprise en 1984. C'est évidemment ce qui lui permettra de s'imposer à Hollywood. Après avoir écrit le scénario de Terminator, il pourra enchaîner avec celui de deux gros succès, Rambo et Alien. Alors sa version de Rambo 2 ne va pas convaincre les producteurs et ne verra donc pas le jour, mais celle d'Alien 2, en revanche, oui. Mais mon camarade Ray vous montrera qu'il y a un peu, voire même beaucoup de Rambo dans ce nouvel Alien. On peut dire qu'à cette époque-là, dans sa tête, c'est la guerre. Alien le Retour reprend l'histoire lorsque la capsule de survie de Ripley est enfin retrouvée après 57 ans de dérive dans l'espace. À son réveil, elle apprend que la planète sur laquelle a été découvert l'alien du premier film a été colonisée. Mais personne ne semble croire à son histoire d'extraterrestre tueur jusqu'à ce que les colons cessent de répondre. Du fait de son expérience, Ripley accompagnera un groupe de marines suréquipés déployés sur la planète pour en reprendre le contrôle. Mais rien ne peut les préparer à affronter les xénomorphes qui se sont cette fois-ci multipliés.
L'état d'esprit quasi guerrier de Cameron se révèle être bien loin de celui de Ridley Scott. En effet, si aujourd'hui Aliens le Retour est considéré comme à peu près tout le monde comme un classique de la science-fiction, à sa sortie, le film sera le point de départ d'un véritable schisme dans le monde de la science-fiction. Et ce, jusque dans les plus hautes sphères, comme au sein du célèbre duo de critiques Siskel et Ebert, qui posaient chacun un regard bien différent sur le film. Il faut dire que cette différence de vision entre les deux cinéastes est parfaitement logique lorsqu'on s'intéresse à leurs parcours respectifs. Là où Scott est issu d'une éducation plutôt bourgeoise et en fait ses études à la prestigieuse Royal College of Art de Londres, James Cameron, lui, a tout appris par lui-même en squattant des bibliothèques. Scott possède une vision plus « noble » entre guillemets de l'art, ayant pendant longtemps pris de haut les films de science-fiction, comme il admettra lui-même plus tard. Cela se voit d'ailleurs dans son travail, puisque la force visuelle d'Alien premier du nom repose davantage sur des cadres travaillés, posés, une lumière subtile, des décors fourmillants de détails, là où la force visuelle d'Aliens, le retour, repose lui bien plus sur le mouvement, l'action et le découpage. Cela se ressent également au niveau de l'écriture, puisque si le premier Alien et les suites les plus récentes est l'occasion pour Scott et ses équipes d'y déverser tout un contenu d'interprétation psychologique et de fantasme, Aliens, de James Cameron, est avant tout un produit narratif qui en est son propre intérêt et qui en est exprimé de la manière la plus pure possible. Dès lors, on peut tout à fait comprendre qu'à sa sortie, Aliens a déchaîné les passions des fans, notamment les plus hardcore du premier opus. Lorsqu'ils ont vu que le travail de l'atmosphère et de l'ambiance pesante et quasi mystique du premier opus avait laissé sa place à une tension étirée par l'action et l'imagerie militaire. En particulier à une époque où le cinéma d'action reaganien va peu à peu établir son hégémonie à Hollywood. Du coup, la question que l'on est en droit de se poser est la suivante. Aliens de Cameron est-elle une suite bourrine, impersonnelle, sans imagination et irrespectueuse de l'œuvre du grand auteur Ridley Scott?
À la bagarre, je prends un panard. Oui, le grand panard garanti.
Oh, arrête de filmer.
Celui qui me cherche, il va me trouver. Admirez la bête. Hé, Ripley, pas de panique. Moi et mon escouade de bastonneurs, on pète les flammes, on va vous protéger. Lisez le travail.
Eh bien, comme vous vous en doutez, pas vraiment. Faut-il d'abord rappeler que si Alien le 8e passager est le fruit d'un travail créatif collectif, Aliens, lui, est le fruit de James Cameron dans son entièreté. Le bourg ayant signé le scénario, la mise en scène, les décors, voire une partie de la photographie lorsqu'il s'est brouillé avec son premier chef opérateur. Si l'on s'en tient donc à la définition stricto sensu, c'est bien Cameron, et non Scott, qui mérite le plus le statut d'auteur dans cette saga. Mais même si l'on met cela de côté, Aliens de James Cameron est loin d'être une simple œuvre de divertissement bourrine, désossée de toute seconde lecture, et également loin d'être irrespectueuse du premier film. Car y ayant regardé de plus près, en dehors de l'ambiance, rien ne vient contredire le récit originel. Cameron poussera même à reprendre peu ou prou la même structure narrative en quatre actes, avec les mêmes moments pivots et une fin très similaire. Le film n'est pas non plus dénué de sous-texte et de seconde lecture, car en effet, si Cameron se réapproprie le film en termes de production, larguant au passage Giger, il se réapproprie aussi le film en tant qu'œuvre en elle-même et y distille essentiellement deux thématiques. La première, s'inscrivant dans la continuité du premier film, est la maternité. En effet, si le premier abordait la place de la féminité dans un monde masculin, Aliens, le retour, passe à l'étape d'après avec le rapport à la maternité, toujours au cœur d'un monde masculin. Après tout, rappelons que l'un des premiers plans est une surimpression de Ripley sur la Terre, rappelant au passage le fœtus de 2001, l'Odyssée de l'espace. Mais le véritable centre névralgique reste surtout le personnage de Newt. C'est en effet autour d'elle que gravitent tous les enjeux dramatiques, et c'est aussi elle qui sera l'enjeu et le moteur du climax du film, opposant deux mères, Ripley, qui projette en Newt sa relation perdue avec sa propre fille décédée durant son errance spatiale, comme expliqué dans une scène forte en émotion, finalement coupée du montage initial mais présente dans la version longue, et la reine alien.
Est-ce que vous avez des nouvelles de ma fille, oui ou non ?
Eh bien oui, on a pu avoir des informations. Si on s'asseye. J'aurais mieux aimé qu'on parle de tout ça après l'audience. Amanda Ripley McLaren... son nom de femme mariée, sans doute, âge 66 ans. C'est l'âge qu'elle avait à l'époque de son décès. C'est-à-dire, il y a 2 ans. Je suis désolé.
2 versions différentes, donc. Ripley, qui souhaite sauver son enfant en tant qu'individu et se reconstruire à travers elle, et la reine alien, qui souhaite sauver ses enfants en tant que descendance, sans place pour l'individualisme. L'approche se rapprochant des insectes de Cameron est une idée de génie en ce sens, qu'il poussera jusqu'au bout, modifiant le design des xénomorphes, les rendant certes moins détaillés, mais beaucoup plus mobiles. Mais là où l'idée de s'approcher d'un modèle d'insecte atteint vraiment le génie, c'est qu'il permet aussi de souligner un second sous-texte, l'imagerie de la guerre du Vietnam. En effet, au début des années 80, l'Amérique commence enfin à regarder ce passé militaire plus glorieux et à en tirer les leçons. C'est d'ailleurs dans cette décennie qu'on aura droit à des films comme Platoon, Outrage, Né un 4 juillet et tant d'autres. Après tout, rappelons que le film raconte l'histoire de marines suréquipées se faisant décimer par des ennemis technologiquement inférieurs, mais maîtrisant parfaitement leur environnement. Jouant d'ailleurs habilement avec le côté mi-organique, mi-mécanique du design originel de Giger. On peut aussi voir un certain parallèle avec leur déplacement dans les canalisations et les chemins secrets à travers la jungle dont les Vietcong avaient le secret. On retrouve également cette allégorie chez les Marines, que ce soit dans leurs costumes ou véhicules, directement inspirés de ceux utilisés par l'armée américaine au Vietnam, mais également dans leur personnalité, puisqu'ils démarrent la mission en étant persuadés de leur succès, avant de se faire décimer et de céder à la panique, comme le personnage de Bill Paxton. Enfin, dernier point que nous relèverons, l'aspect insecte justement, des xénomorphes, eux, qui ne sont traités que comme une masse desservant une cause commune, plus importante que chacun d'entre eux. Faisant ainsi un parallèle avec le communisme, en tout cas d'un point de vue américain. S'il fallait retenir qu'une seule séquence, résumant tout cela, c'est celle du rêve au début du film, faisant écho aux états de stress post-traumatique des soldats d'une part, évoquant aussi la thématique de la maternité, Ripley accouchant de son propre cauchemar et qui devra lutter pour se reconstruire en tant que femme et mère, ou céder à jamais à ses démons.
Comme tu le montres bien, l'approche de Cameron, bien que différente de celle de Scott et du premier film, n'en est pas moins intelligente. Il arrive bien à se réapproprier son univers, mais en fait tout simplement quelque chose d'autre. Mais du coup, si on cherche le véritable successeur d'Alien, le 8e passager de Ridley Scott, son héritier, ce n'est peut-être pas du côté d'Alien 2 qu'il faut se tourner, mais du côté de The Thing, ou La Chose en français, le film réalisé quelques années avant par John Carpenter en 1982. Dans celui-ci, ce ne sont pas les humains qui se rendent sur la planète d'un alien, mais un alien qui se rend sur la planète des humains, puisqu'il y est question d'un vaisseau spatial qui se crache en Antarctique, non loin d'une base de recherche scientifique. Et ce vaisseau contient une sorte d'alien ou de virus alien, que les êtres vivants vont absorber à son contact, mais sans changer pour autant d'apparence. Du moins, jusqu'à ce que celui-ci se révèle au grand jour. Ainsi, lorsque les scientifiques de la base vont le découvrir, il sera impossible de savoir qui est contaminé et donc qui est l'alien, qui décime progressivement toute l'équipe. On retrouve ici la même ambiance sombre et claustrophobique du premier alien, pleine de paranoïa, d'ambiguïté et de méfiance, avec un ennemi intérieur indécelable que les humains croient pouvoir traquer alors que c'est lui qui les traque.
Un mot encore pour terminer, notons le travail du grand créateur d'effets spéciaux Stan Winston, qui grâce à son talent donnera vie aux visions de James Cameron, en créant d'une part des xénomorphes beaucoup plus mobiles, mais également la reine alien en taille réelle, véritable prouesse technique pour l'époque et qui est aujourd'hui visible après un long travail de rénovation au musée de la miniature et du cinéma à Lyon.
Merci Ray d'avoir participé à cette émission et d'avoir eu l'idée du sujet, et merci à vous surtout de nous avoir écoutés. On se retrouve le mois prochain pour la prochaine émission sur Radio B. À bientôt.
Je devrais atteindre la frontière dans moins de 6 semaines. Avec de la chance, le réseau devrait me repérer. Ici Ripley, dernier survivant du Nostromo. Terminé.